Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Pauline lui dit « Non, je t'ai dit que je ne voulais plus. C'est fini. » Une bonne nuit de sommeil te remettra les idées en place. Pauline se lève et lui dit « Non, c'est fini. » Michel ose les épaules de fureur et lui dit « Tu me laisses tomber comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu trouveras une autre chanteuse? Tu sais, je ne cours pas les rues. C'est pas facile d'en trouver une. » Apolline se dirige vers la sortie. Michel la rattrape. Elle la fait tourner vers elle. Elle lui dit, la gorge serrée, les larmes aux yeux. « Je t'aime, moi. Tu comprends ?»« Oui, je sais, ma pauvre Michel. Mais j'y suis pour rien. Nous sommes trop semblables. Et puis... Je n'aime pas faire semblant. Les copies. Il me faut, moi, du vrai. Lorsque je veux de l'amour, j'ai besoin d'un vrai homme. Tu comprends? Elle lui répond. Oui. Il me manquera toujours quelque chose entre les jambes. Elle pleure. Elle lui dit. Avec les femmes, ça n'a jamais marché. Pourtant, j'ai la peau plus douce. Tu connais les femmes à fond? Apolline lui dit. Tu les connais trop. Et pour connaître, il faut être de l'autre bord. Tout d'un coup, Michel prend Apolline dans ses bras. Il l'embrasse profondément sur les lèvres. Apolline se laisse aller. Elle a l'impression de défaillir. Puis Michel lui dit « Pars maintenant. Avec ce baiser, tu m'oublieras jamais. » Sans rien dire, Apolline sort. Dehors, le jour se lève. La rue commence à s'animer. Il fait frais. Apolline sait que c'est la dernière fois qu'elle va dans ce quartier. Une affiche qui est décollée d'un mur que le vent amène au pied d'Apolline. Elle la ramasse. C'est l'affiche de son spectacle. Lâche le papier. S'envole. Hey, lendemain, ou plutôt plus tard, en fin de matinée, en prenant le déjeuner dans la salle à manger avec son frère, elle lui dit « J'arrête le chant. » Il lui demande « Qu'allons-nous faire ?» Elle lui répond « Nous partirons ailleurs. C'est fini ici. » Il lui dit « On ne peut pas. Il faut attendre le retour de Mathilde. » Mathilde et Paul. Elle lui dit « Tu écris ?» Il lui répond « Je n'arrive pas pour le moment. J'ai la tête vide. » Elle lui dit « Attention, on va vite t'oublier. » Les jours passent. Apolline ne fait rien et s'ennuie. Charles-André a des difficultés à écrire. Alors, tous les deux, pour des raisons différentes, se souviennent de l'opium. Lui pour créer, elle pour sa vie, pour oublier sa vie. Comme il reste un peu d'argent, Charles-André, un jour de déprime, sort en chercher. Une fois entré chez lui, il s'enferme dans sa chambre et sort ses ustensiles. Apolline, qui a l'odorat fin, sent la chose. Elle va frapper à sa porte. Tu peux rentrer si tu veux. Il est allongé sur son lit et fume. Elle s'approche et lui dit « J'aimerais bien moi aussi. Viens. » Elle s'allonge près de lui. Lui prépare une pipe et la lui donne. Désormais, ils passent une grande partie de leur journée à fumer. L'argent file vite et ne s'en rendent pas compte. Dans la brume de l'opium, leurs sens aiguisés, ils redeviennent amants. Cela se fait sans qu'ils ne s'en rendent compte. Lorsqu'ils ne fument pas, ils sont dans l'apathie, ils ne parlent pas, marchent et font des gestes comme des fantômes. Ils maigrissent, sont sales, en rien les fatigue, mangent très peu, car tout a le goût de la drogue. Ils ne vivent que lorsqu'ils fument, et lorsqu'ils ne fument pas, ils ne supportent pas de vivre. Ils s'écartent. Et c'est comme si, malgré eux, ils avaient honte de ce qu'ils faisaient durant leur séance de pipe. Les jours passent et pas de nouvelles de Mathilde ou de Paul. C'est comme si le frère et la sœur étaient revenus à leur point de départ. Les jours passent, mais pour eux, il y a ni jour, ni nuit. Ils vivent un temps confus qui est réglé par des séances de pipe et des heures sans. Un jour, Charles-André va pour aller chercher toujours la même chose de cet opium qui lui ouvre le monde des sens. Alors qu'il traverse le grand boulevard, un fiacre s'arrête net devant lui. La portière s'ouvre. Un homme bien mis lui dit « Alors, tu me reconnais pas? Tu ne reconnais plus tes amis ?» Charles-André le regarde bien et reconnaît Paul. méconnaissable, bien mis, en costume marine, chemise blanche, canne. « Excusez-moi, Paul, mais je ne vous reconnaissais pas. » Paul lui dit.
« C'est normal, mais vous, vous ne changez pas. Peut-être plus maigre et pâle, et vos vêtements sont plus très propres. Mais montez, montez donc, mon ami. »
Charles André entre dans le fiacre. Paul dit au cocher d'avancer. On entend le bruit du fiacre et le bruit de la ville.
« Vous allez où ?»
Charles André lui dit. « Chez le chinois, pour ce que vous savez. »
« Je ne vous accompagne pas, ce n'est plus mon rang. »
Charles André lui demande. « Comment va Mathilde ?» Paul lui répond.
« Oh, Mathilde, elle est morte en Espagne. Une faiblesse étrange. Je ne vous ai pas prévenu pour éviter de vous faire de la peine. Eh oui, c'est moi qui hérite de sa fortune. Et dire que nous aurions pu partager, c'est mieux ainsi. Je suis riche maintenant et libre. Et vous, que devenez-vous ?
Charles André haut ses épaules, Paul lui dit.
Je sais. Vous avez du talent comme romancier, mais cela ne suffit pas. Il vous faut aussi vivre. Il ne faut pas toujours suivre ses désirs. L'ennui, l'amour, c'est beau, mais ça ne dure pas. Et puis, cela crée des ennuis. Il n'y a que deux types d'hommes dans la vie. Ceux qui font tout pour réussir et les autres. Vous, vous perdez votre temps à Paris. Cette ville n'est pas faite pour les gagnants, elle n'est faite que pour les gagnants. Vous, malheureusement, vous rentrez toujours. Vous avez beau vous dépenser, vous faites du surplace. Regardez, vous êtes à la même place qu'à votre arrivée. Moi, lorsque j'ai un but, je fais tout pour y arriver. Regardez, vous êtes à l'emprise de l'opium. Vous êtes sale et sûrement sans argent. Comment allez-vous faire pour vous en procurer ? Voler une passante ? Prêter votre corps à des pervers ? Vous pouvez même plus travailler honnêtement. Un conseil, cranchez chez vous. Et peut-être qu'avec l'appui de votre famille, vous arriverez à vivre normalement. Votre sœur a du cran, elle. Elle ira loin. Si vous ne l'ennuyez pas. Je vais vous faire descendre. Pardonnez-moi, mais je ne vais plus dans ces quartiers sordides. Il frappe de la canne, le fiacre s'arrête. Paul lui tend la main et lui dit « Adieu, je sais que nous ne vous reverrons plus. »
Charles André sort du fiacre, abasourdi et honteux, car il sait que Paul a raison, qu'il est un raté, un bon à rien. Les jours passent, l'argent commence à manquer. Charles André demande un peu d'opium au chinois à crédit. Le vieil homme, tout maigre, sait qu'il ne sera jamais remboursé. Il lui dit
« Non, mais si vous voulez vous faire un peu d'argent, allez vendre votre montre à l'horloger en face. »
Charles André, après avoir réfléchi, va dans le magasin. Une boutique de quartier poussiéreuse, Un petit homme à cheveux gris lui demande
« Vous désirez ?»
Charles-André montre sa montre en tremblant. Il lui dit
« Combien ?»
L'homme la prend délicatement. C'est une belle montre en or, un bijou du 19e. Il la regarde, la soupèse. Mais regarde plus Charles-André que la montre. Il sait que ce client vient d'en face de son ami chinois. Ses yeux pétillent de malice. Il lui dit
« Elle est bien vieille. »
Charles-André dit en tremblant
« C'est une montre de prix. Très belle. »
L'homme ouvre le boîtier et il lui dit
« Oui, mais le mécanisme est vieux. Les gens préfèrent le moderne. »
Charles-André tremble de plus en plus.
« Vous m'en donnez combien ?»« Oh, je ne peux vous en faire que... Je ne peux pas faire plus. »
« Elle en vaut 10 ou peut-être même 20 fois plus. Tout dépend de l'horloger qu'il a faite. » Charles-André sait que c'est du vol, mais il ne peut faire autrement. Il se sent incapable de marchander ou d'aller ailleurs. Il lui dit
« Bon. »
Le vieux sourit, met de suite la montre dans son tiroir de sa banquette, sort quelques pièces qu'il donne à Charles-André. Il le prend frénétiquement et quitte la boutique. Arrivé chez le chinois, il lui donne toutes les pièces sans compter. Le chinois sourit, s'incline et lui donne une portion de ce fameux opium. Charles-André sort en courant pour aller chez lui. Deux jours plus tard, il retourne chez le chinois.
Vous avez de l'argent ?
Il fait non de la tête.
Alors, pas l'opium.
J'en ai besoin. Trouve de l'argent.
Charlandais, furieux, retourne chez lui. Sa sœur lui demande
« Tu en as ?»«
Non, il faut de l'argent.
Donne-moi ton collier. »«
Pourquoi te donnerais-je mon collier ?»«
C'est pour le vendre. Donne-le-moi. Moi, j'ai bien vendu ma montre. Autrement, on n'aura rien. »
Elle défait son collier et le lui donne.
« Tiens. »
Il le reprend et repart le vendre à l'horloger. Deux semaines plus tard, il va directement chez l'horloger, tremblant, en manque.
« Tu viens me proposer quelque chose ?»
Il baisse la tête et lui dit
« Non, j'aimerais que vous me prêtiez de l'argent. »«
Pas question !»
Il en faut, je te dis.
Et moi, il me faut un objet.
Je ne suis pas un misanthrope.
Charles-André voit tout tourner. Il y a des fourmillements sur tout le corps.
J'en ai besoin, c'est vital.
Les larmes aux yeux, de rage. D'un geste, il renverse tout ce qu'il y a sur une banquette. L'horloger furieux va vers lui.
T'es complètement fou ?
Charles-André l'attrape au collet et lui crie :
Donne-moi ton argent !
L'horloger sort son revolver de sa poche. Il lui plaque contre le ventre.
« Lâche-moi ou je tire !»
Charles-André le lâche. L'horloger crie
« Va-t'en maintenant !»
Charles-André, tremblant, sort furieux.
Il faut absolument qu'il trouve un moyen pour avoir de l'argent.
Il sait que ça ne sert à rien d'aller chez le chinois.
Il ne peut pas le voler non plus. Il est trop entouré et risquerait un mauvais coup.
Il marche derrière les rues au hasard, avec une idée en tête. L'argent. 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 bout d'un moment, fatigué, il s'assoit sur un banc. La rue est peu fréquentée, car elle a tout un côté, un long mur noir et triste, où derrière se trouve un cimetière, lequel il ne sait pas. Il sait que c'est un cimetière parce que dépasse du mur, de l'autre côté, les croix. Il réfléchit. Il se demande ce qu'il pourrait bien faire. Il est prêt à tout. Et s'il passait une vieille dame avec son sac, il l'aurait attaqué pour lui prendre son argent. La morale ne signifie plus rien pour lui. D'ailleurs, vous en êtes souvent rendu compte. Mais il ne passe rien dans cette rue. Ce qui fait que ça le met en repos. Il ne voit pas le temps passer. Tiens, en parlant de passé, un homme vient vers lui. De loin, il a l'air grand, maigre, plus très jeune, habillé d'un manteau marine d'une canne. Il marche d'un bon pas. Lorsque l'homme est près de lui, il voit qu'il a le visage très laid et osseux, les cheveux grisonnants. L'homme passe devant lui, se retourne et le regarde, puis s'assoit près de lui. Jean-André ne bouge pas. L'homme l'observe et lui dit « Sans le temps, il fait gris. » Jean-André ne dit rien. L'homme le regarde bien et lui dit « On peut faire connaissance. » Jean-André le regarde sans rien dire. L'homme lui dit « J'étais parti pour chercher quelqu'un. Je revenais bredouille et puis je vous ai vu. Vous êtes beau, vous savez. Si vous voulez, on pourrait passer un moment ensemble. » Charles-André le regarde une seconde, ahuri, puis calme son orgueil et lui dit « C'est très cher. » L'homme tremblant sort de sa poche un billet froissé. « J'ai que ce billet. » Charles-André lui dit « Ça peut aller. » L'homme, satisfait, lui dit « On va quelque part. » Charles-André hausse ses épaules et lui dit « Je ne connais pas un endroit. » « Moi aussi. » Il y a un terrain vague pas très loin. » Charles-André se lève et lui aussi dit « On y va. » L'homme se lève et se met en marche. L'homme lui dit « Je suis vraiment confus pour vous. J'espère que je vous dégoûte pas trop. Je suis vieux et moche. J'ai honte de faire ça, mais que voulez-vous? Le cerveau ne vieillit pas à la même vitesse que le corps. Les désirs sont restés les mêmes que lorsque j'avais 20 ans. Chaque fois que je vois un beau jeune homme comme vous, je souffre. J'ai tellement envie de le toucher. Des fois, je me mets à en suivre. Ils sont tellement beaux avec leurs petits corps gracieux, leurs jolies petites fesses et leurs frimousses. Je vous assure, c'est que j'ai lutté pendant un long moment avant de passer. Avant de penser à une personne comme vous, j'avais honte. Mais j'avais honte de moi. Malheureusement, cela fait un an que je n'ai pas touché à un corps. Alors, je me suis dit que je vais bientôt partir. Il faut encore que je sente, que je touche cette chose sublime.
Vous avez un très joli corps. Votre visage est magnifique.
Jean-André lui demande. C'est encore loin ?
Votre visage est magnifique.
Jean-André lui demande. C'est encore loin ?
Non, là-bas, l'autre côté de la rue.
Ils y vont. Jean-André a hâte que ce soit fini.
Enfin, ils arrivent devant une palissade en bois. Le vieux soulève de grandes planches et lui dit
« C'est ici ».
Jean-André passe, le vieux aussi.
Il se trouve dans un terrain vague avec des tas de détritus. Ça sent l'humidité et la fumée.
Jean-André voit tout ça. Il se dit que c'est qu'ici qu'il va, comme les chats, dans un endroit pareil.
Le vieux lui dit
« Venez derrière, c'est tas de... Ils seront tranquilles. »
Jean-André
se rend là.
Il le suit. Ils vont derrière un tas qui se trouve presque contre la palissade.
Jean-André se met contre la palissade et dit
« Donne l'argent. »
Le vieux lui donne le billet et lui caresse le visage.
« Tu es beau, très beau. »
Il donne un baiser sur la joue.
« J'espère que je ne te dégoûte pas trop. »
Fais vite. Le vieux descend ses mains le long de son corps.
Jean-André ne sent rien.
Quel corps admirable!
Puis d'une main tremblante, il essaye de lui descendre son pantalon. Charles-André l'aide. Il reste ses omoplates au mur et regarde le ciel. Le vieux lui a descendu son pantalon.
Charles-André sans qu'on lui touche ses parties intimes à travers le caleçon.
« Tu as de très belles fesses. »
Il lui descend son caleçon.
Charles-André ne bouge pas. Il ne bande pas.
Le vieux se baisse, lui caresse les fesses, prend les couilles dans ses mains qu'il tripote.
Malgré lui, Charles-André commence à sentir quelque chose.
Une petite pipe, ça te fera du bien.
Et le vieux se met à le sucer goulûment en tenant d'une main ses couilles qu'il malasque et de l'autre main, il pelote les fesses.
Charles-André se détend. Le vieux lui mordit le gland. Il bave.
Il le suce pendant un quart d'heure.
Charles-André voit qu'il va jouir, ne sait comment faire. Il jouit et éjacule dans la bouche de l'autre con. Tant pis pour lui.
Le vieux se relève, l'air joyeux, les lèvres et le menton pleins de sperme. Ça dégoûte Charles-André.
Le vieux se penche vers lui avec son visage taché et veut l'embrasser.
Charles-André l'en empêche.
Le vieux lui dit
« Tu es mon petit oiseau. J'ai rarement vu un aussi beau garçon. »
Puis, prend son mouchoir et essuie le visage.
Charles-André prend le sien et essuie son sexe, les couilles et les cuisses pleines de baisers du vieux, puis jette le mouchoir, se rhabille.
Ensuite, il se dirige vers la sortie du terrain vague.
Le vieux le suit.
« Que tu es beau, que tu es beau. Tes fesses sont un délice. »
Voit sortir du terrain vague, le vieux lui demande.
« On se voit quand ?»
Charles-André ne dit rien et se sauve en courant.
Vite, vite, il retourne vers les Chinois pour lui donner de l'argent.
Tu en as trouvé ?
Donne !
Le Chinois va lui préparer son paquet.
Les jours passent. Ils ont de plus en plus des difficultés d'argent. Le loyer à payer, manger un peu, se chauffer et l'opium. Apolline ne se rend compte de rien, parce que ce n'est pas elle qui va chercher la drogue. Mais lui, Charles-André, il doit trouver l'argent. Au début, il cherche s'il n'y a pas quelque chose à vendre. Puis après avoir bien réfléchi, autant que soit peu, parce que son cerveau est plein de brume d'opium, il décide avec tristesse de se prostituer. Il va dans les rues et regarde. Il a appris à reconnaître les lieux pour ce genre de rencontre. Dans des endroits un peu calmes, près d'une pistière, d'un banc, dans un parc, où l'on voit toujours les mêmes jeunes gens qui attendent, assis négligemment, la mine de rien, habillés d'une façon qui avantage plus ou moins le corps. Des hommes plus ou moins mûrs les entourent, vont, viennent, quelquefois s'arrêtent et leur parlent. Ce genre de manège se fait discrètement, et pour les gens moins expérimentés, c'est-à-dire les gens qui ne cherchent pas, ils ne se rendent compte de rien. Passe devant eux sans faire attention. Mais lui, Charles-André, est devenu expert et sait voir ce trafic. Alors il se met dans un coin où la chose se déroule. Pas très visible, pour ne pas faire connaissance à ceux qui sont déjà là, il se met contre un mur avec un manteau et regarde le ciel en fumant une cigarette. Son visage pâle, juvénile, attire les regards de ces messieurs, car il a l'air plus innocent que les autres. Il relève la jambe et plaque le pied contre le mur, puis s'amuse à serrer ses cuisses avec la cuisse qui est relevée et attend. Des fois, il attend longtemps. La plupart du temps, ce sont des personnes d'un âge qui l'interpellent, qui sont bien habillées, se sentent gênées, on le regarde triste. L'amour, ça rend triste chez les gays, j'allais dire. En tout cas, chez ceux qui passent par ce genre de service. La plupart du temps, Charles-André ne les regarde pas. Emmène le vieux dans une allée et au fond d'un recoin, ils font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas grand-chose, des attouchements primaires, genre touche-pipi, des maternelles ou préadolescents vers 14 ans, là où le sexe est plus fait et les pistières des préaux permettent de jouer avec ses petits copains pour se défouler. Durant la séance, Charles-André ne sent rien, il ne bande même pas. Quel que soit le billet, il se permet qu'un quart d'heure d'attouchement et demande l'argent avant. Des fois, la chose se passe dans un fiacre. Le vieux appelle un fiacre, ils font le pâté de maison et, pendant ce temps, le vieux le tripote. Dès qu'il a suffisamment d'argent, Charles-André court chez le chinois. Un jour, il est dans une allée avec un vieux dans un recoin près de la porte qui donne à la cave. Pendant que le vieux le tripote, il entend des pas. Le vieux se relève et ne bouge pas tremblant. Charles-André a tout juste le temps de relever son caleçon et son pantalon qu'il voit arriver vers lui un jeune homme, grand, fort, le visage jovial, cheveux châtains, habillé en ouvrier avec une casquette. Le jeune lui dit
« Alors qu'est-ce qu'on fait là ?»
Charles-André ne dit rien. Le jeune le prend au collet.
« Tu es en train de te faire enculer sur le tapette !»
Le vieux apeuré se sauve en courant. Le jeune tient toujours au collet Charles-André qui a peur.
« Lâche-moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait de mal. »«
T'as donné combien le vieux pour te faire enculer ?»
Charles-André sort de sa poche un billet. Le jeune le prend.
« Que ça ?»«
Oui, je vous jure, il n'y a rien de plus. »
Le jeune lui crache au visage.
Sale tapette, j'aime pas les tapettes.
Il donne deux coups de poing au ventre et se sauve en couvrant.
Charles-André a des difficultés à respirer.
Il se redresse, puis chancelant, il quitte la pièce. Il quitte l'allée.
Les jours passent. Un jour qu'il est chinois, se trouve une femme, grande, mince, maigre, à cheveux rouges, pas peignés, une robe noire sale. La femme, en passant devant Charles-André, le regarde bien et lui dit
« Toi aussi ?» Tu vas chercher de ce poison.
Tu sais comment tu finiras. Tu vas mourir dans d'horribles souffrances. Tu deviendras fou, incapable de différencier la réalité du cauchemar. Ce poison tue et avant te fera faire des horreurs. Tu n'es plus libre, tu lui appartiens. « Arrête pendant qu'il est temps !»
Charles-André lui dit.
« Et qu'est-ce que tu en sais, toi ?»«
Mon ami en est mort, et avant de mourir, il a vécu l'enfer sur terre. C'était horrible, il était devenu une vraie bête. »
Charles-André voit le paquet.
« Alors pourquoi tu en prends, toi ?»«
Parce que moi, j'étais sa compagne. » J'y ai pris goût, et malgré ce que je sais, je ne peux pas m'en passer. Mais tu, je sais où ça mène.
Et elle le quitte.
Ce que vient de dire cette femme touche Charles-André, car dans ses instants de lucidité, il se rend compte que la vie qu'il mène n'est pas très belle. Il y a des moments de grande lassitude, mais le besoin de drogue le tenaille et le force à passer outre. Et puis la drogue lui enlève ses idées noires. Mais cette fois, il n'arrive pas à oublier ce que lui a dit la femme, car il sait qu'elle a dit vrai, que c'est son avenir à lui et à sa sœur. Alors, il décide d'arrêter. En arrivant chez lui, il dit à sa sœur « J'arrête ». Elle lui demande « Tu as l'opium ?» Il le lui tend. Il l'avait acheté parce qu'il était chez le chinois, elle lui dit
« Tu arrêtes vraiment ?»«
Oui, » dit-il tremblant, plus très sûr
car il vient de sentir cette odeur tant désirée. Mais un reste de force, pour ne pas être tenté, le fait sortir de l'appartement. Avant qu'il ne parte, il lui dit « Toi aussi, il faudra arrêter. C'est du poison. Tu vas mourir dans des souffrances terribles. » Elle lève les épaules et lui dit « Des histoires, tout ça. » Et il s'en va. Malheureusement, arrêté comme ça, sans l'aide de personne, et en étant avec une compagne, en compagnie d'une personne qui continue, cela n'est pas facile et même très dur. Car Charles-André sent l'odeur chez lui, et il est difficile de dire non alors qu'il lui suffirait de tendre la main pour en avoir. En plus, son corps est en manque. Il y a des brûlures d'estomac terribles, des tremblements, des troubles de la vue, avec vision et de l'ouïe. Il y a des difficultés à s'alimenter, le cafard, le désir de s'arracher les entrailles, de se taper la tête contre les murs. Il aimerait mourir pour arrêter tout ça. Des fois, d'un coup, après avoir passé la journée à se tordre dans son lit, il se lève pour sortir. Dehors, le froid le surprend. Il est obligé de remonter le col de sa veste. Le bruit l'étourdit. Les gens qui vont et viennent lui donnent le vertige. Alors il marche comme un somnambule. Ses pas incertains, le regard vide qui inspire de temps en temps de la panique. Des fois il s'arrête d'un coup, tremblant. Des fourmillements dans tout le corps qui lui font mal. Au bout d'un temps, il reprend sa route. Il le faut bien. Un après-midi qui marchait comme ça, ses pas le mènent vers le chinois. Il reste paralysé devant l'entrée du restaurant, tremblant. Une envie folle lui prend d'aller chercher de la drogue. Mais il reste paralysé. Il n'ose faire pas sans... Il n'ose pas faire un pas. Sa raison lui dit non. Son corps lui dit d'y aller. Il a la tête qui tourne et veut rentrer. Ses pieds tremblent. Il voit rouge, vert, bleu, jaune. Il met la main sur la porte et voit le visage de la femme qui lui dit d'arrêter. Il a chaud, tout tourne. Sa main ouvre la porte. Une bouffée de chaleur. Le chinois qui lui sourit. Tout tourne. Je savais que vous alliez revenir. Tout tourne. Rouge. Il se réveille. Le chinois est penché sur lui et lui dit « N'y a rien, vous êtes en manque. » Il lui tend une pipe. Jean-André fume une bouchée. Une douce chaleur envahit son corps. Il se sent mieux. Les tremblements cessent petit à petit. Il n'a plus mal à l'estomac. Le chinois lui demande « Vous allez mieux ?» Il fait oui de la tête. Vous pouvez vous relever? Il se relève. Il se relève difficilement. Vous avez de l'argent pour acheter de la... Non. Le chinois furieux.
en levant le bras pour lui montrer la porte, lui dit « Alors, fichez-moi le camp. Revenez lorsque vous en aurez. »
Le Chinois s'approche et lui dit « Vous êtes dur avec vos clients. » Le Chinois lui répond « C'est pour les inciter à trouver de l'argent. »
Ce n'est pas bien beau. Autrement, ils resteraient comme ça, à ne rien faire. Ils sont de vrais feignants, vous savez. »
Garde Jean-André lui dit
« Allez, sortez dehors. »
Charles-André sort décontenancé. Hébété.
Il marche au hasard. Il y a des difficultés à réfléchir. Sur le quai de Seine, un petit vieux lui court après. Il le rattrape et lui dit
« Bonjour, vous ne me reconnaissez pas ?»
Charles-André ne voit pas.
« Je suis le monsieur qui t'a amené dans un terrain vague où je t'ai fait des douceurs. Si tu veux, on peut recommencer, j'ai de l'argent. »
Tout à coup, Charles-André voit le visage laid, plein de sperme sur les lèvres et le menton. Cela le dégoûte, il a envie de vomir, il se met à crier en secouant le vieux.
« je ne veux pas recommencer, je ne veux pas, tu comprends? Je veux arrêter cette vie, non, non, non !»
En le secouant, il le plaque contre le muret du pont. Le vieux est affolé, n'ose pas crier de peur du scandale. Et puis, il fait nuit, il n'y a personne.
« Non, je ne veux pas, non !»
Et d'un geste brusque, il le pousse l'homme qui se renverse. Tombe en avant et avant de tomber à l'eau, il cogne la tête contre la paroi du pied du pont, ce qui le tue sur le coup. Charles-André est soufflé, continue sa route. Il a toujours dans sa tête le refrain, le refus de continuer cette vie. Malheureusement, au bout de 5 minutes, son corps demande de l'opium. Tremblements reviennent, il a froid, mal à l'estomac. Tout en marchant,
ça ne veut pas recommencer. Je ne veux pas ça, je ne veux pas recommencer. Non, je ne veux pas, je dois lutter.
Mais il se sent faible, de plus en plus faible. Incapable de lutter. Puis au bout d'un moment, tout en marchant, il est prêt à n'importe quoi. Plus pour ne plus avoir mal, froid, pour ne plus trembler. Il est prêt à n'importe quoi. Voler, tuer, n'importe quoi. Tout à coup, peut-être dû à un réflexe de lucidité, il voit apparaître le visage du vieux. Cela le dégoûte tellement qu'il se sauve en courant.
Un orage éclate, il pleut à grosses gouttes, il continue à marcher, il est trempé, les rues sont ruisselantes, il pleut, car il se dit qu'il est enfermé dans une spirale dont il ne sortira jamais.
Je ne vais tout de même pas mener tout mon temps à me prostituer ou voler. Pour de l'opium. Non, je veux en sortir. Mon Dieu, aidez-moi à en sortir.
Tout à coup, il manque de tomber sur un pavé mal enfoncé. Ce choc
avec l'eau qui ruisselle sur le sol, lui donne l'impression qu'il se jette à l'eau. Il se dit, voilà la réponse de Dieu. D'un pas rapide, comme s'il allait chercher quelque chose qu'il allait délivrer de tout, il se dirige vers le bord de Seine. Là, il descend sur la berge. Elle est ruisselante. La Seine houleuse, boueuse, déborde. L'orage continue à gronder. Les escaliers, les éclairs illuminent la ville. Il s'avance vers le bord. Très vite, les bouts de son pantalon sont mouillés. Il sent que ses pieds sont à la limite de la berge. Ils sont trempés. Sans trembler ni hésiter, il fait un pas, puis deux, puis perd l'équilibre. Il n'a plus plaie. Ses vêtements flottent, lui coulent sans rien dire, ni faire un geste. Le menton, la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. La bouche se remplit d'eau, le nez aussi, les oreilles. Ce qu'il fait bourdonner, puis les yeux, il y voit trouble. Il y voit trouble. Se sent descendre. N'entend plus rien, ne voit plus rien. Une sensation de descente dans le noir. Et plus rien. Plus rien. Puis, on se sent transbahuté, l'essoufflement, transporté, l'essoufflement, de retour, le froid, la rue trouble qui revient petit à petit, le bourdonnement des oreilles, le ciel, des visages qui se posent, on se sent touché, vous soufflez, vomissez, épuisez, retournez. Retournez, nu, sur le dos, transporté, vous laissez faire, vous ne savez plus, un flot trajet, des regards qui se posent. Puis, transporté, minu. Voir Jean qui s'affaire. Pourtant, on vous transporte, déposé sur lui, on vous déshabille, couche, on vous questionne, vous n'avez pas envie de répondre. Et vous ne répondez pas. On vous fouille la veste, on vous enlève, vous montre votre portefeuille, piqûre, puis, seul. Le noir. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre.
les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. C'était la 18e partie.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.